Le journal de Stéphanie Wenker.
Bonjour. Retour historique de Donald Trump à la Maison-Blanche. Le républicain a battu Kamala Harris et devient le 47e président des États-Unis. Alors que les résultats sont encore attendus dans plusieurs États américains, Donald Trump a déjà récolté 276 grands électeurs. Il en fallait 270 pour être élu. L'élection de Donald Trump en tant que président des États-Unis a récolté une multitude de réactions des dirigeants dans le monde entier. En Suisse, plusieurs parlementaires se sont exprimés quant à l'impact sur la politique internationale ou sur le droit des femmes. Dans la région plombée par les finances et plombée par les charges de transfert, le budget 2025 de la ville de Neuchâtel affiche un déficit de 8,7 millions de francs. Les contributions en faveur de l'accueil de l'enfance et des familles sont mises en avant par le conseil communal. Du brouillard en dessous de 800 mètres d'altitude, du soleil au-dessus, la météo de ce mercredi est une vraie météo d'automne dans la région. Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche se confirme. Plusieurs médias annoncent que l'ex-président a remporté l'élection présidentielle. Fox News et CNN désormais indiquent que le républicain a décroché suffisamment de grands électeurs pour faire son retour à la tête du pays, 4 ans après avoir été évincé, Julien Hirt.
Cette fois, la messe semble être dite. Donald Trump avait déjà revendiqué une grande victoire politique. C'est le terme que le candidat a utilisé lorsqu'il s'est exprimé pendant la nuit devant ses partisans. Les projections lui attribuent désormais au moins 276 grands électeurs. Il lui en fallait 270 pour s'imposer. Sa rivale, la démocrate Kamala Harris, n'en aurait pour l'heure que 223. Les états clés, ceux dont l'issue était incertaine avant ce scrutin, semblent tous être tournés vers l'ancien président. La Caroline du Nord, la Géorgie et le plus grand, la Pennsylvanie, ont déjà validé des résultats en ce sens. Le verdict du Wisconsin tombé il y a quelques instants met fin au suspense, selon plusieurs médias. C'est le plus grand retour sur la scène politique de l'histoire américaine, a affirmé celui qui va vraisemblablement devenir le nouveau président, J.D. Vance. Car au-delà du nombre de grands électeurs, Donald Trump pourrait aussi gagner le vote populaire, donc le plus grand nombre de voix au niveau national. Ce serait une première pour lui, après ses campagnes de 2016 et de 2020. Une première même depuis 2004 pour les Républicains.
Et la candidate démocrate Kamala Harris, elle, ne s'exprimera pas avant plusieurs heures. Son équipe de campagne a affirmé qu'elle attendrait la fin de la nuit aux États-Unis pour prendre la parole. Avant même d'avoir tous les résultats officiels, Donald Trump a déjà célébré sa victoire devant ses supporters enthousiastes, leur déclarant « Nous avons écrit l'histoire ». Il n'avait peut-être pas tort, comme le montre le portrait que notre correspondant à Washington, Claude Porcella, nous dresse.
La victoire de Donald Trump est un retour sans précédent dans l'histoire récente. Son parcours est vraiment étonnant. Ce milliardaire qui avait bâti sa fortune dans l'immobilier à New York est entré en politique sur le tard en 2015. À la surprise générale, il bat en 2016 une politicienne chevronnée, Hillary Clinton. Sa présidence sera chaotique, il gère mal la pandémie, les scandales sont nombreux et quand il se représente en 2020, il est battu par Joe Biden. Mais il conteste sa défaite, prétend que l'élection était truquée, essaie par tous les moyens d'inverser les résultats. Mais son acte le plus répréhensible a lieu le 6 janvier 2021, quand il encourage ses partisans à marcher sur le Capitole, qu'ils vont saccager, alors que Trump les regarde à la télévision dans son bureau. Il attendra plusieurs heures pour demander aux émeutiers de rentrer chez eux. Trump a 4 procès sur les bras, dont un civil, mais en dépit de tout cela, au lieu d'aller en prison, tout semble indiquer, une fois que tous les bulletins auront été dépouillés, que pour la première fois dans l'histoire, un délinquant s'installera à la Maison-Blanche pour 4 ans. Il faut le faire.
Les Républicains seraient également en passe de reprendre le contrôle du Sénat, jusqu'ici aux mains des démocrates. S'ils se maintiennent à la Chambre des représentants, ils pourraient contrôler l'ensemble du système politique. Ce qui ne veut pas dire que Donald Trump aura complètement les mains libres, selon David Sylvan, le professeur en sciences politiques à l'Institut de hautes études internationales et du développement à Genève, ainsi que spécialiste des États-Unis.
Franchement, le pays est coupé en deux et complètement divisé. C'est presque 50-50. Hein. Donc, d'une part, ce n'est pas forcément donné qu'il va contrôler tout le Congrès. Mais d'autre part, la véritable question, c'est quelle sera donc la résistance envers lui. Parce que jusqu'ici, chaque fois qu'il a parlé des choses comme de s'installer comme dictateur, etc., tout le monde a dit « Ah non, c'est une blague, etc. » Maintenant, on va voir et on peut imaginer toutes sortes de tentatives à le contrecarrer à la fois à l'intérieur du pays et surtout à l'extérieur du pays. Mais je crois que ça serait comme une bombe, effectivement, pour l'OTAN, pour l'économie mondiale, pour le Proche-Orient, etc. Et malheureusement, il y aurait énormément de conflits et de résistance pour des années à venir.
En Suisse, la victoire de Donald Trump n'est pas vraiment une surprise pour Damien Cottier. Le conseiller national neuchâtelois libéral radical et par ailleurs président de l'association parlementaire Suisse-USA constate que les États-Unis sont devenus plus conservateurs et que le bilan du gouvernement Biden a frustré une grande partie de la population. Mais le retour de Donald Trump annonce une période d'incertitude au niveau de la politique internationale. Damien Cottier.
On peut supposer qu'il y aura beaucoup de changements par rapport à la ligne actuelle des États-Unis, mais quelle sera l'intensité de ces changements, c'est une question qui est encore complètement ouverte. Ça dépendra aussi de l'équipe qui va l'entourer, des ministres en particulier, des conseillers qu'il va choisir. Dans l'équipe précédente, il y avait des personnes qui étaient aussi très fortement atlantistes, par exemple, qui travaillaient avec l'OTAN. Donald Trump, lui, a donné des signaux dans un autre sens. Quelle sera la position du nouveau secrétaire à la Défense, du nouveau secrétaire aux affaires étrangères, secrétaire d'État? C'est des questions qui sont encore complètement ouvertes. Je crois que ce qu'il faut, c'est simplement admettre cette élection, constater que c'est une élection démocratique et que Trump a gagné, il va mettre en place une équipe. Et il faut travailler avec parce que les États-Unis et la Suisse ont des intérêts communs en matière économique, en matière de défense de la paix et de la démocratie. Et là, on a beaucoup de travail à faire ensemble et il faudra voir exactement quelle orientation il va donner. Mais c'est vrai que ça ouvre des points d'interrogation.
Le retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis est vu par contre comme une catastrophe pour les droits des femmes et des personnes LGBT, selon Tamara Funicello. La conseillère nationale et coprésidente des femmes socialistes rappelle que Trump a annoncé à plusieurs reprises son intention de limiter encore l'accès à l'avortement et à la contraception. Un recul des droits des femmes qui ne se cantonne pas qu'aux États-Unis. Tamara Funicello.
C'est très inquiétant pour le reste du monde, surtout parce qu'on voit que cette tendance, elle ne s'arrête pas aux États-Unis. Il ne faut pas oublier que c'était Donald Trump qui a fait un deal avec les talibans et qui a donné en fait la possibilité aux talibans de faire ce qu'ils sont en train de faire avec les femmes en Afghanistan. Mais en même temps, on a aussi des tendances en Suisse. Si moi j'entends Albert Rusty qui dit qu'en fait Donald Trump comme président, ça c'est pas trop mal pour la Suisse, ça dépend quelle Suisse. Et surtout, là je me demande vraiment qu'est-ce que sont ses opinions concernant les droits des femmes. Et il ne faut pas oublier que ces tendances, ils ne s'arrêtent pas aux États-Unis, ils existent aussi en Suisse, ils existent en Allemagne et en France et ils sont en train de gagner de pouvoir très vite.
Et avant même la confirmation de la victoire de Donald Trump, plusieurs réactions internationales étaient déjà tombées ce matin. Par exemple, le président français Emmanuel Macron qui le félicitait et se disait prêt à travailler ensemble. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou saluait pour sa part le plus grand retour de l'histoire. Quant au président ukrainien Volodymyr Zelensky, il a félicité le républicain pour son impressionnante victoire, espérant que son élection aidera l'Ukraine à obtenir une paix juste. À noter aussi le cours du dollar américain qui s'est renforcé ce matin déjà, dès que la victoire de Donald Trump se dessinait. Ce scrutin qui s'est déroulé dans un contexte tendu a fait l'objet d'une haute surveillance. L'OSCE a mené une mission d'observation pour s'assurer de la régularité du scrutin. L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe a dépêché 15 experts sur place ainsi que 65 observateurs dans certains états pivots issus des états membres. Le conseiller national UDC valaisan Jean-Luc Adore en faisait partie. Il a mené à cette occasion sa première mission d'observation dans le Nevada en tandem avec un élu allemand du Bundestag. Après avoir visité 17 bureaux de vote, Jean-Luc Adore en ressort avec une impression positive.
Le point de départ, il ne faut pas l'oublier, c'était un pays extrêmement divisé, avec un président que certains, pas juste deux, trois personnes, jugent encore illégitime, avec une partie non négligeable de l'électorat, surtout du côté républicain, qui n'avait pas confiance dans le système. Ben, ce qu'on a constaté, ben, franchement, c'était plutôt rassurant, parce qu'on avait des bureaux qui étaient bien organisés, tout se déroulait dans le calme et la sérénité, aussi bien à l'extérieur des bureaux qu'à l'intérieur. Ça donnait une image plutôt rassurante de la fin de cette campagne du dénouement, et puis ça permet d'avoir un petit peu d'espoir. On va revenir dans ce pays qui est quand même, en toute simplicité, pour l'instant encore, la plus grande puissance du monde.
Et cette mission d'observation va aboutir à un rapport global présenté en début d'année prochaine. Jean-Luc Adore qui répondait à nos collègues de Rhône FM. Les finances de la ville de Neuchâtel s'améliorent légèrement, mais restent dans le rouge. Le conseil communal a dévoilé son budget 2025 ce matin. Il présente un déficit de 8,7 millions de francs. L'excédent de charge s'élevait à 9,1 millions lors des prévisions pour 2024. L'exécutif souligne que le budget pour l'an prochain s'inscrit dans la continuité d'une politique publique ambitieuse et d'une gestion équilibrée et durable. Le conseiller communal en charge des finances le qualifie de plutôt encourageant et souligne qu'il est axé sur des prestations en faveur de la population, en particulier des familles. Jonathan Grétilla énumère les bonnes nouvelles de ce budget pour la population de la ville de Neuchâtel.
C'est notamment la poursuite du déploiement du projet MAE, de l'anticipation aussi de la modification de la loi sur les structures d'accueil pré-parascolaire, donc une augmentation des structures d'accueil pour les familles, qui effectivement aura un impact favorable sur la conciliation entre la vie privée et familiale, parmi d'autres choses. On peut aussi relever la baisse de la taxe déchets, alors qui est peut-être symbolique, mais qui va passer de 105 francs à 80 francs par ménage, qui dans une période de hausse des coûts et d'inflation donne aussi un signal positif pour les ménages.
À l'inverse, les mauvaises nouvelles de ce budget, qu'est-ce qui le plombe ?
Alors, les principales rubriques qui plombent notre budget seront ce qu'on appelle les charges de transfert. Donc, c'est beaucoup de montants, de l'ordre de plus de 5 millions de francs, qui ne dépendent pas de notre maîtrise directe. C'est souvent des montants qu'on doit à d'autres collectivités, au canton ou à des syndicats intercommunaux. On parle notamment du pot commun des transports publics qui augmente de manière importante. Également, les écoles et d'autres structures qui peuvent augmenter sans qu'on ait finalement directement voix au chapitre.
Jonathan Grétière répondait à Jean-Paul Pitchy. Ce budget 2025 de la commune de Neuchâtel prévoit aussi 48 millions de francs d'investissement. Il sera traité par le Conseil général le 9 décembre. Le canton de Neuchâtel est tout près d'atteindre ses objectifs en matière de formation professionnelle. Son but est de parvenir à 85% d'apprentissage en mode dual. Selon les derniers chiffres publiés à la mi-septembre, Neuchâtel en est à 81% cette année. En 2015, le taux était de 68%. Si l'augmentation a été conséquente ces 10 dernières années, la progression a tendance à ralentir. La chef du département de la formation entend poursuivre ses efforts. Christelle Graff.
La progression est moins rapide, on doit continuer les efforts. Maintenant, on sait aussi qu'on rentre dans une période économique un peu plus compliquée pour plusieurs entreprises dans le canton de Neuchâtel. Et on sait aussi que quand il y a un essoufflement au niveau conjoncturel, eh bien, il y a aussi peut-être moins d'apprentis qui sont engagés. Donc on doit vraiment travailler sur ces questions-là pour continuer sur cette dynamique qu'on a jusqu'à maintenant.
Quels sont les outils à disposition pour continuer sur cette dynamique ?
C'est de poursuivre notamment tout ce qui a trait à l'image de la formation professionnelle qui a encore une image un peu négative auprès des parents, auprès des enseignants, auprès des élèves. Donc aujourd'hui, on est au cœur du Forum des métiers. C'est un endroit qui permet de valoriser la formation professionnelle et on doit continuer de montrer finalement ce que c'est la formation professionnelle. C'est pas être dans un établi sans lumière au fond d'une cave. C'est bien plus que ça et c'est quelque chose d'extrêmement positif pour les jeunes, pour leur permettre de s'insérer sur le marché du travail.
Des propos recueillis par Claire Viget et c'est indicateur réjouissant pour les autorités. Les stages d'orientation destinés aux élèves de 10e et 11e année sont en progression. Le canton de Neuchâtel y voit l'intérêt des jeunes à découvrir une large palette de métiers. Toujours plus de loups sont visés par une décision de tir, alors que le nombre d'animaux de rente tués continue à baisser cette année, s'inquiète une alliance d'associations écologistes. En comparaison avec l'an dernier, les attaques de troupeaux sont encore diminuées, ceci pour la troisième année consécutive, constate aujourd'hui BirdLife, le groupe Loup Suisse, ProNatura et le WWF dans un communiqué commun. Ces derniers exigent que la régulation des effectifs soit menée avec modération. Et en Suisse, dès le 1er janvier 2025, il sera possible de combler des lacunes de cotisation dans le pilier 3A par des rachats ultérieur. Le Conseil fédéral a pris cette décision ce matin à l'issue d'une procédure de consultation.
RTN, il est 12h29.
Sport. Karishi Yann n'est plus l'entraîneur d'Olten. Le club solerois de Swiss League de hockey sur glace l'a remercié ce matin. Le Canado-Suisse paye les mauvais résultats de l'équipe depuis le début de la saison. En 17 parties, les Souris n'en ont remporté que 7 et comptent déjà 16 points de retard sur le HC et la Chaux-de-Fonds en tête du classement. Le successeur de Karishi Yann a été annoncé dans la foulée. C'est Christian Wolved, ancien entraîneur d'Ajoie, qui reprendra le poste. Et du nouveau pour Sauber en Formule 1, l'écurie zurichoise annonce l'engagement du Brésilien Gabriel Bortoleto pour la saison prochaine. L'actuel leader du championnat de Formule 2 fera la paire avec l'expérimenté allemand Nico Hülkenberg. Les deux pilotes courront sous les couleurs de Sauber avant la transition officielle vers l'équipe d'usine Audi en 2026. Bon appétit, belle suite de journée.